De retour dans Plan de match avec Jean-François Desaulniers, ça va toujours bien?
Oui,
t'es toujours. Pas évanoui, ça va bien.
Non, ça va.
On va aller écouter Benoît Lefebvre dans quelques minutes. Et justement, parlant de Benoît Lefebvre, ça me fait penser que Yves Allard, qui travaille en collaboration avec Benoît, était un des invités à On a des choses à dire ce midi. Et ça va suivre l'émission. C'est qui les autres invités?
Ben, d'abord, il y a la directrice générale du CTTEI, Centre de transfert technologique, ici à Sorel-Tracy, Hélène Gignac, qui nous parle de l'investissement de 2,3 millions de dollars. Ce projet donc qui avait été annoncé la semaine dernière, de réalisation d'un projet de traitement des boues.
Ouais.
Ça va se faire ici. Yves Allard, on l'a dit. Et également, Réchane Salvaille nous parle de commérage positif et négatif.
Commérage?
Oui.
OK. Du patinage et tout ça.
C'est ça.
Est-ce que tu es un gars... Est-ce que tu cours, Jean-François?
Pas beaucoup.
As-tu déjà couru?
J'ai déjà couru.
OK. T'as-tu déjà fait des marathons, des courses comme ça?
Je pensais que t'allais me dire, t'as-tu couru après pas mal de filles? Non.
Mais... tu cours après des filles, ouais, Jean-François. Ouais.
Pas des marathons. Okay. Par contre, je m'intéresse beaucoup. J'ai suivi des gens qui ont fait des Ironman.
Oui.
J'ai même connu une femme qui a fait des Iron Girls, si on veut, des demi, des... Ça m'intéresse, je regarde ça, mais j'ai pas nécessairement les capacités physiques. D'abord, j'ai un souffle au cœur, je pense qu'on vient déjà de... Donc, au niveau de la courte distance, ça va. Mais quand ce sont de longs marathons, oubliez-moi, là, je suis pas là.
Ben, en tout cas, tu seras peut-être un des spectateurs attentifs lors de la course de la Giblotte qui va se dérouler pendant le festival. C'est le mercredi, le premier mercredi, je pense, du festival. Et Benoît Lefebvre, qui est le président du festival de la Giblotte, qui est coureur lui-même, a publié ce matin sur la page Facebook du festival de la Giblotte le parcours. Donc, vous pourrez le découvrir en même temps que lui. C'est une espèce de vidéo un peu humoristique où il se filme en train de courir, mais c'est un peu rigolo, où il montre finalement les intérêts ou les points d'intérêt que vous pourrez voir si vous allez courir le 5 ou le 10 km, parce que le 1 km va se dérouler, c'est deux tours, je pense, du Carré Royal, fait par les enfants. Alors, on va aller écouter Benoît Lefebvre tout de suite et on vous revient ensuite dans Plan de match. En conversation avec le président du Festival de la Giblotte, c'est encore ton titre, Benoît?
Oui, ça compte toujours le titre. Toujours le même titre.
Des fois, il y a tellement de changements des fois. Je suis très content de te parler parce que on parle d'un événement, moi, qui m'excite beaucoup. C'est la 35e édition de la course du Festival de la Giblotte. Est-ce que tu étais là au début de tout, toi, Benoît?
Non, j'étais pas là. Dans le fond, j'ai participé à quelques occasions comme participant depuis deux ans. Comme président. L'an passé, on se rappellera qu'il y a eu quand même, malgré tout, une activité, une course l'an passé. Alors, on est effectivement à la 35e édition, mais la 40e édition du festival.
OK. Et cette année, c'est quoi les gros changements dans la course de la Giblotte?
Bien, on a eu... Les gros changements sont relativement mineurs par rapport à l'an dernier. On se rappellera que l'emblématique pont Turcotte avait été un défi pour quelques-uns.
Okay? Oh oui.
Alors, ça fait partie encore du trajet. Et cette fois, comparativement à l'an passé, où est-ce qu'on prenait des accès vers le parc industriel, on s'en va plutôt dans les rues de Saint-Joseph pour se rendre jusqu'à la Pointe-aux-Pins et revenir par les rues Montcalm. Et, on monte par Montcalm et on revient par notre rue par Saint-Joseph pour reprendre le pont Turcotte après environ 4 kilomètres. Donc, juste pour le restant d'adrénaline qui nous reste, pour ensuite finir dans le centre-ville et... Enfin, profiter des activités du festival pour le restant de la soirée.
Oui, si on a encore des jambes et du souffle.
Ben, effectivement, cette côte-là est toujours un peu discrète dans le sens qu'on pense jamais que l'impact est si long. Mais ça fait un beau défi, puis en même temps, les gens sont fiers quand ils arrivent dans le parc d'avoir passé cet emblème du pont.
C'est vrai. Et cette année, 5 km, encore une fois, 10 km, 1 km, est-ce qu'on l'avait fait l'an dernier aussi?
On l'avait fait l'an dernier, on sait surtout pour les enfants.
Oui. Okay.
Qui est peut-être encadré de façon différente, donc c'est deux fois le tour du Carré dans les zones qui vont se passer ensuite de ça, effectivement. Donc le premier départ au niveau du 1 km, c'est vraiment aux alentours de 18h20. Et ensuite, de façon subséquente, il y a le 10 km qui va partir à 18h50 et le départ de la course et de la marche du 5 km, cette fois-là, à 19h. Et,
OK. Et justement, tu parles de marche. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait marcher la course de la Giblotte. Ça, c'est pas une nouveauté non plus.
Ça, c'est pas une nouveauté. Ça a toujours été de plus en plus. Dans le fond, c'est de faire participer les gens.
Ben oui.
Et que ce soit, là, chacun a son défi. Il y en a le défi, c'est de franchir la barre du 20 minutes, mais il y en a simplement le défi, c'est de faire, c'est de bouger pour pouvoir marcher. Alors, effectivement, c'est fait pour toutes les gammes. Le 10 km, par contre, considérant je dirais, la longueur de ce que ça peut être de marcher 10 km, là, et avec la fermeture du pont, ça ne sera pas accessible. Mais au niveau de la marche et au niveau de la course de 5 km, oui, c'est une activité qui est en place depuis un certain nombre d'années.
Et justement, tu parles de gens qui se fixent des défis. Il y a quand même un chronométrage assez sérieux qui est fait de l'événement.
Oui, ben un peu comme partout, il y a les gens qui vont s'inscrire en ligne actuellement vont pouvoir bénéficier de leur temps, donc une puce qui va être à partir de leur dossard. Donc dès qu'ils vont franchir la ligne de départ, vont pouvoir être chronométrés jusqu'à temps qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Alors leur temps va être disponible aussi par internet. Ils vont pouvoir se comparer, se lancer des défis. Ils vont pouvoir voir s'ils ont amélioré ou non leur temps.
Et surtout s'ils ont battu les collègues.
Environ 4,92 km, donc pour jouer dans la marge d'erreur pour le 5 km, donc c'est parfait.
Et surtout pour savoir s'ils ont battu des collègues aussi. Des fois, on se lance des défis d'entreprise. Je sais qu'il y a la course défi entreprise, ça revient cette année, c'est chapeauté par le CI3S. À chaque année, c'est quand même un très grand succès, ça.
Oui, et avec le travail... Le travail de Mary Wallet qui travaille de façon impeccable sur ce dossier-là, donc qui prépare aussi les entreprises à se préparer justement à la course. Et dans le cadre de cette soirée-là, les entreprises installent des chapiteaux et ça aussi comme un happening. Il ne faut pas juste voir ça comme une course, il faut voir ça aussi comme un happening, comme une distraction, comme un engagement de l'ensemble des compagnies. Donc, l'année passée, de mémoire, il y avait près de 20 ou 30 entreprises qui avaient participé, qui avaient relevé le défi entreprise. Alors, effectivement, c'est chapeauté par le CI3S de la Montérégie. Les informations sont disponibles aussi au niveau du site Internet du festival, mais aussi au niveau du site Internet du CI3S.
Parfait. Et j'allais dire, année après année, on compte combien de coureurs à peu près au Festival de la Giblotte?
Bon an mal an, dans les grosses périodes de l'an passé, il y avait eu près de 985 coureurs de toutes les catégories. Alors là, cette année, on espère encore dans les mêmes horizons. Il y a beaucoup de courses, de plus en plus de courses. Fait que c'est toujours un défi de savoir la réalité du nombre de coureurs, mais on pense que le 12 juillet, un mercredi, dans un contexte de festivités dans la région, donc les gens devraient être au rendez-vous. Et d'ailleurs, la période d'inscription est toujours ouverte là jusqu'au 6 juillet. Donc, on peut faire ça en ligne jusqu'au 6 juillet sur le site Internet de Sport Chrono. Et on paye directement en ligne tout aussi l'inscription. Alors, ensuite de ça, on récupère notre dossard à la journée même d'activité.
Et on parle de combien pour l'inscription, Benoît?
Je vous dis ça, j'ai pas le site de mémoire, c'est environ une vingtaine de dollars, là, mais vraiment, c'est de mémoire parce que j'ai pas le site devant moi, mais c'est les mêmes tarifs que l'an passé.
Parfait. Et ben écoute,
on vit pas l'inflation.
Ben c'est un très beau moment en tout cas à chaque année de voir les gens qui encouragent les coureurs et on va souhaiter qu'il y ait autant de participants que de gens pour les encourager. Et le trajet finalement de cette course-là est disponible sur la page Facebook du festival.
Oui, sur la page des courses du festival et il y a aussi le petit vidéo. Qui va être mise en ligne au cours des prochains jours. Un peu pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est vraiment une vidéo sans prétention et humoristique. L'an passé, il y avait eu la course que j'avais fait, que je m'étais filmé moi-même et qui avait fait un montage pour la course. Alors cette année, vous verrez là, aussi une vidéo qui va démontrer le trajet sous une partie plus humoristique là, pour que les gens puissent le visionner en 2-3 minutes, le trajet.
Est-ce qu'on pourra te croiser toi-même sur le parcours?
Oui, parce que je pense que cette semaine-là, je vais être à temps plein présent dans le centre-ville. Pas nécessairement au niveau de la course, parce que l'organisation de tout cet événement-là, de la 40e édition du festival, est quand même assez prenante. Alors, je vais laisser les autres courir, mais je vais les encourager.
Ben, c'est très gentil d'être passé, Benoît, puis on va te souhaiter un bon festival et une bonne course aussi.
Ben, merci de nous avoir donné l'occasion d'en discuter.
Merci beaucoup. Bye.
Merci, au plaisir.
Merci à Benoît Lefebvre, donc, qui organise le Festival de la Giblotte, mais qui organise aussi la course du Festival de la Giblotte. Est-ce que tu as déjà mangé de la Giblotte, Jean-François?
Non, pas encore, mais je songe à en manger bientôt.
Première expérience. Écoute, je veux juste te parler de quelque chose rapidement. rapidement. Tu sais que c'est les 100 ans de la Ligue nationale cette année. Mm-hmm. Et on a sorti le bilan des 100 plus grandes équipes de la Ligue nationale. Tu as vu le résultat peut-être?
J'ai pas vu tous les résultats. Ben, j'ai parcouru, il y avait le CH, je pense, puis les Red Wings.
Oui, est-ce que tu as eu, toi, est-ce que tu as un souvenir d'une excellente équipe dans la Ligue nationale?
Je te dirais de façon générale, le Big Five, là, les équipes fondatrices. Toronto est de retour là, avec Mitch Marner. C'est une équipe qui est de retour, qui fait les séries au moins là, depuis quelques années.
Ça va très, très bien.
Il y a Détroit, qui est mon équipe de hockey préférée.
C'est vrai? OK.
Ouais, bon, qui est vraiment une dynastie.
Je pensais que tu étais un CH, toi aussi.
Non.
OK. Non. Moi, je suis un Flyers. Toi, tu es un Red Wings. On va bien s'entendre, j'ai l'impression. Ouais. Donc, t'aimes beaucoup des joueurs comme Steve Yzerman et tout ça.
Montant à Gordie Howe même, là, ouais.
Ben, les Red Wings de Détroit ont été élus dans les 10 premières équipes. Je pense que c'est celle qui a gagné la première Coupe Stanley en 1998 ou quelque chose comme ça. Mais je voulais surtout te parler du fait que là, il y a un petit drame qui se joue ces jours-ci. On dit que c'est les Oilers d'Edmonton, donc de 1984-85, qui serait la meilleure équipe. Évidemment, il était piloté par Wayne Gretzky, Messier, Kevin Lowe, tu sais, il y avait dans cette équipe-là plein de joueurs. Chose surprenante, on aurait cru que peut-être l'équipe du Canadien de Montréal, 76-77, qui avait perdu seulement 6 matchs, serait au moins deuxième. Mais non, c'est les Penguins de Pittsburgh de 91-92 avec le grand Mario à cette époque-là et tous les joueurs, Ron Francis, Tom Barrasso.
Le Canadien de 86 n'est pas là.
Non, il n'est pas là. C'était un peu une surprise cette année-là, 86. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Oui, c'est une équipe, sans dire Cendrillon, là, l'issue. Là, il y avait un but, je pense, un but qui avait été controversé aussi, je pense.
C'est possible, mais en 86, il y avait très, très mal fini la saison. Et on avait décidé de faire garder les buts à Patrick Roy.
Oui, c'était Paul Pageot dont la femme, dans le fond, est en train d'accoucher.
Exactement.
Était parti au chevet de sa femme.
Et donc, c'est ça qui est arrivé. Ça fait qu'à un moment donné, c'est une équipe qui surprend. Un peu comme, en tout cas, personnellement, je trouve, cette année, les Sénateurs d'Ottawa ont été une équipe Cendrillon jusqu'à tout récemment. Mm-hmm. L'idée, ou en tout cas, menée par un gardien de but qui faisait des arrêts miraculeux. Et là, c'est ça. Donc, en 86, non, ils sont pas dans dans le top 10. On va prendre une pause, nous, ici, dans Plan de match, et on va vous revenir tout de suite avec d'autres entrevues.